Vous écoutez
RMC.
On va retrouver quelqu'un qui est aussi monté dans les volumes quand Merino a marqué, puisque il était à Dallas pour ce Portugal-Espagne. Et Jérôme Sillon est avec nous. Salut Jérôme.
Salut les amis, bonjour à tous. Enfin bonsoir, bonjour. Bonsoir, je suis toujours
bonjour,
à Dallas
bonjour,
d'ailleurs.
Bonsoir.
Bonsoir oui, Jérôme.
T'es toujours à Dallas, 7 heures de décalage avec Paris. 2h24 pour nous, 19h24 pour toi, si je dis pas de bêtises.
Exactement, tout à fait. Tu vois, je suis installé, je m'apprête à m'installer en terrasse pour regarder tranquillement le match des États-Unis. Il y a un petit peu de monde dans les bars, mais on va pas se mentir, hein, c'est pas un engouement terrible. On sait qu'au Texas, c'est pas une terre de soccer, ça se confirme. Hein, je peux vous le dire. Quand c'est les États-Unis, je pensais qu'il y aurait du monde partout, qu'il y aurait des drapeaux américains affichés. Il y avait beaucoup plus d'ambiance hier soir pour le Mexique, par exemple.
Allez, la conférence de presse, les réactions après Portugal-Espagne, évidemment, entre des Espagnols satisfaits de s'être évité une prolongation, parce qu'on y allait presque tout droit avant le but de Merino, et des Portugais ah oui. où il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, des fins de mandat ou de fin de.
Alors tu veux commencer par quoi ? Dis-moi tout.
Allez, Cristiano Ronaldo.
Allez, on commence par Cristiano qui a donc confirmé une fois de plus, comme hier, que c'était bien sa dernière Coupe du Monde. Évidemment, il n'a pas fait un match exceptionnel. En chiffres, qu'est-ce que ça donne la prestation de Cristiano Ronaldo ? J'en ai sorti quelques-uns pour vous. Alors, vous dire d'abord qu'il a touché au total 19 ballons, dont 3 seulement dans la surface de réparation de l'Espagne, ce qui est quand même très peu. Il a eu évidemment une occasion de but. Il a tiré 2 fois. Une première fois, il était excentré. Ça a été repoussé par Unai Simon. Et la deuxième, pareil, parade d'Unai Simon. C'était la meilleure occasion d'ailleurs du Portugal suite à une tête de Joao Félix. Donc c'était clairement pas le meilleur match de Cristiano Ronaldo. Peu de mobilité. Et puis de toute façon, voilà, il y avait des moments où on se disait mais qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain, avec tout le respect qu'on lui doit. Pourquoi Gonçalo Ramos n'est jamais entré dans ce match? Enfin, je me mets à la place des supporters portugais. Ok, dans le stade, tout le monde était venu pour voir Cristiano Ronaldo. Mais bon, à un moment donné, la logique politique doit céder la place à la logique sportive. En attendant, il a été interrogé en zone mixte à l'issue de la rencontre. Je vous propose de l'écouter parce qu'il y a des choses assez intéressantes.
Bueno, fue un partido muy equilibrado. Podía dar para cualquier uno.
Ça a été un match équilibré.
España ha tenido esa puntita de suerte.
Marcar. Voilà, l'Espagne a eu un petit peu plus de chance que nous.
Pero es el fútbol.
Mais c'est comme ça, c'est le football.
En el general fue un partido bien disputado.
Cristiano, voilà, dans l'ensemble, ça a été plutôt un bon match. Alors c'est ton dernier mondial. Comment tu l'as vécu? Voilà, le fait de ne plus pouvoir jouer avec tes coéquipiers. Je suis triste.
Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa.
Mais comme j'ai dit hier en conférence de presse.
Pues ha dado mi mejor.
J'ai tout donné, j'ai donné le meilleur. Je pars avec la conscience tranquille.
D'un footballista.
Vous savez, c'est la vie d'un footballeur. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et il faut continuer.
Que fue mi último mundial. Sí.
Voilà, la vérité, c'est que c'est vraiment mon dernier mondial. J'ai tout donné.
Voilà,
je vais avoir du temps pour réfléchir, penser en famille, me reposer.
Y seguir la vida.
Et puis la vie continue. Et puis c'est la dernière question à ce moment-là. Je voulais te demander.
Voilà.
Ton mondial voilà, n'est pas forcément réussi, mais ta carrière est immense. Dans quel état d'esprit tu vas te lever demain matin? Comme je me suis levé ce matin, de la même manière. Je pars la conscience tranquille, j'ai donné le meilleur. Le Portugal n'avait jamais gagné de titre avant Cristiano. Moi, j'en ai gagné 3. Voilà, mais le plus beau trophée que j'ai gagné avec la sélection, c'est l'Euro 2016. Et pour moi, ça vaut une Coupe du Monde, vraiment. Voilà, donc j'ai tout donné. Demain, ce sera un autre jour. Et il faut continuer. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'à ses yeux, la victoire à l'Euro 2016, c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde. Et donc c'est comme ça qu'il part. Alors c'est une façon aussi peut-être d'enjoliver son bilan et de faire comprendre à tout le monde que même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde en 6 participations, en 11 buts marqués et 27 matchs disputés, bah c'est pas si grave que ça. Mais évidemment que tout le monde sait que c'est le plus grand manque. Et c'est ce qui sera, enfin on va pas retenir que ça de sa carrière évidemment, qui a été exceptionnelle. Mais voilà, ce sera le petit regret quand même.
Oui, et en plus 2016, on rappelle qu'il n'est pas sur le terrain quand le Portugal
sort.
Et blessé. Par contre, ce qui est paradoxal, je regardais finalement sa meilleure Coupe du Monde à Cristiano. C'était la première en 2006.
Exactement, oui.
Et oui.
Bah, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué avec la Coupe du Monde, parce qu'au final, ça reste le tournoi le plus dur à remporter. Il y a seulement 8 nations qui ont remporté cette épreuve, mais pour Cristiano Ronaldo, peut-être qu'aujourd'hui, les attentes étaient très élevées. Il est tombé aussi dans une génération qui n'était pas forcément la meilleure, qui était difficile, parce qu'on rappelle, le Portugal, depuis cet Euro 2016, n'a pu toucher une demi-finale de compétition internationale. Donc c'est clairement un pays qui est chapeau 2 dans le football de sélection, et ça s'est ressenti. Encore une élimination en 8e de finale. Et là, pour le coup, pour Cristiano Ronaldo, par rapport à sa trajectoire en sélection, attention, qui reste extraordinaire, il lui a manqué, c'est une carrière au presque parfait. Ça aurait été mieux au plus que parfait avec la Coupe du Monde.
Tiens, on revient dans un instant. Après ça. Messieurs, Jérôme, parce qu'il y a un coup franc très intéressant. Ça a repris États-Unis-Belgique. Évidemment, on suit ce 8e de finale. La demi-heure de jeu, Aurélien Tiersin.
1-0 pour la Belgique, et c'est Follarin Balogun qui est crocheté par l'arrière par Brandon Mekele. Balogun, point d'appui après une passe de Christian Pulisic, et ça va permettre aux Américains d'enfin tenter leur chance, parce que les 30 premières minutes des Belges sont excellentes. Le but de Charles de Ketelaar à la 9e. Et c'est maîtrisé de la part des joueurs de Rudy Garcia, sauf cette sortie de Brandon Mekele, qui a de l'expérience au niveau de l'âge, 33 ans pour le défenseur du club Bruges, mais ce n'est que sa 14e sélection avec Nathan Ngoy. Ils ont 20 sélections à eux deux, donc là aussi il va falloir être calme. On voit Trossard, Tillmans notamment essayer de calmer, de tempérer un petit peu les ardeurs des joueurs qui ont moins d'expérience. Malik Tillman, qui a marqué une magnifique feuille morte contre la Bosnie-Herzégovine en 16e de finale, est à peu près dans les mêmes conditions, un petit peu plus loin, légèrement décalé côté gauche, 25, 26 mètres des cages de Thibaut Courtois, et les géants Thibaut Courtois évidemment 1m99, il va pas faire l'erreur du gardien bosnien. C'est bien parti, et c'est au fond, Malik Tillman, l'égalisation américaine, elle doit rien à personne celle-là, elle doit rien à la FIFA, rien à Trump. C'est Malik Tillman, tireur de coup franc exceptionnel, un partout entre les États-Unis et la Belgique.
Et ben voilà, ce match est relancé alors que les Belges avaient fait 20 premières minutes d'excellente facture. On ne voyait pas les Américains, Elton. Un coup de pied arrêté, une faute que tu ne dois pas concéder dans une zone dans laquelle tu ne dois pas faire de faute. Et ben voilà, tu te fais sanctionner.
Il y a pour moi deux événements importants, la sortie de Nana, le cooling break qui a permis justement de faire baisser la tension, et qui a permis aux États-Unis, sans être extraordinaire, de mieux revenir avec ce coup franc.
Alors il s'est dévié.
C'est la tête de Van Aken. Ouais. Eh oui, c'est l'entrant malheureux, Van Aken. Il fait 1m95, voilà, ça l'a desservi.
Ça change totalement la trajectoire, et ça prend à contre-pied Thibaut Courtois, mais voilà, c'est dans
c'est
un
terrible pour Van Aken, parce que déjà pour l'instant sa rentrée est pas forcément extraordinaire, mais en plus il est impliqué sur le but de l'égalisation.
Et attention derrière, c'est la folie américaine, Aurélien, hein.
Ouais, ça va les chauffer. Christian Pulisic s'est arrêté par le milieu de terrain belge cette fois, et le ballon va filer jusqu'à Thibaut Courtois. Un partout donc entre les États-Unis et la Belgique. De Ketelaar à la 9e, Malik Tillman à la 31e, le deuxième but de Malik Tillman dans cette Coupe du Monde, et deuxième coup franc. J'ai pas ces statistiques là directement sous les yeux, mais je pense que déjà mettre deux coups francs directs dans une même Coupe du Monde, ça doit quand même être assez rarissime. Les Belges toujours à l'attaque avec De Ketelaar pour Luke Bakio, et là ça a grippé la machine belge, la passe un petit peu en retrait dans le dos de Luke Bakio, il va s'en sortir quand même, le 1-2 avec De Ketelaar. Tillmans, pied gauche, ça c'est bien orienté pour Leandro Trossard sur la gauche de la surface de réparation, le joueur d'Arsenal qui va feinter Sergio Dest, qui va déborder le centre du gauche, la tête de De Ketelaar, il est géant De Ketelaar, ils sont là, les joueurs belges de plus d'un mètre 90, là c'est encore une fois en faveur des Diables Rouges de Buzyn pour la Belgique, il aura fallu 60 secondes pour réagir.
Il est furax, Mauricio Pochettino, parce qu'on sait toujours, on le dit, Elton, les 5 minutes qui suivent un but sont capitales dans la concentration. Et là, les Américains lâchent déjà.
Ah, mais là, il a raison d'être furieux, parce que là, il y a une déconcentration qui permet à la Belgique de revenir tout de suite dans le coin adverse.
Et encore d'Est.
Et encore Trossard, surtout Trossard, qui fait une compétition. C'est encore une fois le meilleur Belge. Et On l'avait annoncé sur cette Coupe du Monde, c'était peut-être le point faible. C'est le point faible, la défense centrale américaine, qui n'est pas forcément la plus hermétique, quand bien même ils n'avaient pas forcément été inquiétés. Mais là, on voit De Ketelaere qui met encore un but très important.
Ouais, tu vois, Trossard, parce que c'est encore venu de ce côté droit de la défense. Hein. Ah oui, Mauricio Pochettino, il a donné un coup dans les bouteilles. Ah
bah, il a bien raison. Bah, là, tu prends, t'encaisses un but après avoir égalisé une minute après. Oui, t'as de quoi être énervé. Et Dest, on le sait, c'est un meilleur contre-attaquant que défenseur.
Oui, ça c'est sûr. Mais c'est presque la même situation que sur le premier but, hein, Aurélien. C'est on renverse, on va jouer sur le côté gauche belge, donc le côté droit de la défense américaine. On perd son duel, le centre. Et derrière, De Ketelaere à la finition.
Mais ouais, bah les deux hommes forts pour l'instant, Trossard, vous l'avez dit, et Charles De Ketelaere, les Américains qui vont obtenir un contre favorable là sur le côté droit avec le centre d'Alex Freeman dégagé par la poitrine de Brandon Mekelo. Il faut pas faire les fautes de main, notamment c'est récupéré par Leandro Trossard avec Nicolas Raskin. Il y a un gros tacle américain de la part de Chris Richards, il me semble. Non, c'est Weston McKenney qui était sur le côté droit et il demande à Monsieur Maranmé de ne pas lui donner de carton. Mais ça sent quand même le carton jaune. Voilà, c'est donné par l'arbitre jordanien parce que Weston McKennie y allait vraiment franco sur Nicolas Raskin. Il y aura une touche en faveur des Belges sur le côté gauche au niveau de la ligne de touche et c'est vrai que les crampons sont assez hauts. Bon, ça va, il a pas non plus mis le crampon sur le, mais c'était, allez, un petit jaune orangé en Ligue 1 à mon avis, à la limite. Carton jaune pour McKennie, 2-1 désormais pour la Belgique. Bah, magnifique, 35 premières minutes dans cette partie.
Moi je trouve que c'est pas trop resté, ça a glissé, hein. Ouais, bon, ça n'engage que moi. Tiens, retrouvons Jérôme Sillon à Dallas. Toi qui es en terrasse, il y a eu un peu d'effervescence ou pas?
Ouais, il y a eu une clameur quand même. Il y a eu une clameur, les gens se sont levés, surtout à l'intérieur du restaurant, parce qu'en terrasse, c'est vrai qu'il fait très chaud. Mais tout le monde a exulté quand même. Ouais, bien sûr, évidemment.
Ah oui, quand bon,
après,
même.
Après, le soufflet est vite retombé.
Ah oui, clairement, la douche froide derrière. Bon, pour terminer sur ce Portugal-Espagne, on a entendu Cristiano Ronaldo, mais l'autre annonce, c'est que Roberto Martinez démissionne, il n'est plus le sélectionneur du Portugal.
Ouais, alors c'était un secret de Polichinelle que de toute façon, à l'issue de la compétition, quel que soit le résultat, il quitterait son poste. Roberto Martinez, dont le bilan chiffré est plutôt bon, on est autour de 70% de victoires avec le Portugal. Donc ça, c'est une réussite. Il a quand même remporté la Ligue des Nations l'année dernière, en battant d'ailleurs l'Espagne en finale au tir au but. Pour le reste, voilà, on a toujours une impression de gâchis au regard de l'immense potentiel et du réservoir de joueurs côté portugais. Voilà pour le côté donc portugais. Du côté espagnol, voilà, on sait que ça a été une victoire quand même très très compliqué. 91e minute, le but de Merino.
Hein.
Ils ont ouais, exactement. Alors après, en termes de domination, franchement, je trouve quand même que l'Espagne a largement été au-dessus avec 15 tirs à 10, 6 tirs cadrés à 2, 27 ballons touchés dans la surface adverse contre 11. Il y a eu plus d'occasions côté espagnol, plus de maîtrise aussi. Et ils ont réussi à marquer sur ce qui fait leur force, c'est-à-dire la qualité du collectif, un échange de passes entre 4 joueurs pour transpercer la défense portugaise. Pour moi, c'est vraiment mérité que l'Espagne passe. 35e match consécutif sans défaite depuis un peu plus de 2 ans maintenant pour l'Espagne. Aucun but encaissé dans cette compétition, dans la Coupe du Monde. Va falloir venir les chercher quand même, les Espagnols.
Ça fait les comptes pour Unai Simon et son nombre de minutes sans encaisser de but.
Ah ben il était à 520, tu rajoutes 90, donc tu es à 610, 609 même exactement, parce qu'il était à 519. Donc voilà, donc t'as compris, en fait c'est juste exceptionnel, en fait Unai Simon qui bat donc le record d'invincibilité et qui bat le record de clean sheet consécutif avec l'Espagne. Le seul petit bémol, c'est qu'on a vu un Lamine Yamal qui est encore sans doute à 50% de ses capacités, un Oyarzabal qui a été un peu moins inspiré, mais c'est une équipe quand même redoutablement organisée et c'est une équipe.
Tu retiens quoi, Elton? Et le fait qu'ils aient quand même peut-être un peu plus galéré que prévu les Espagnols, parce qu'on savait que le Portugal avait peut-être quelques armes, pas sur 90 minutes d'ailleurs, on voit qu'ils lâchent dans les dernières minutes les Portugais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce match d'Espagne, ou juste la force tranquille?
Je retiens le côté autoritaire et la solidité mentale de cette équipe, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un derby contre le Portugal. Il y a eu le précédent de la finale de Ligue des Nations qui a sûrement dû avoir une influence, parce que j'ai trouvé l'Espagne qui a été beaucoup plus calculatrice. Mais pourquoi je parle d'autorité? Parce que encore une fois, c'est un match qui gagne. Au final, l'anomalie de leur Coupe du Monde, c'est le match nul contre Cap-Vert où Vosinha fait énormément de parades, mais pour le reste, c'est une équipe qui, à l'usure, au métier, bah, finit par s'imposer. Moi, je pense que l'Espagne est moins belle qu'en 2024 lors de sa victoire, mais par contre est beaucoup plus mature par rapport à la réalité d'une compétition, et que ça, c'est un élément qui est indispensable pour voyager loin. Ils sont en quart de finale, ils attendent soit les États-Unis, soit la Belgique, bah, pour pouvoir avancer sur un tournoi. À noter que c'est la première fois qu'ils retrouvent les quarts de finale depuis 2010 et leur sacre international.
Oui, puis il y avait cette stat incroyable depuis la victoire en 2010, ils avaient gagné que trois matchs en Coupe du Monde. Bref, c'est une équipe d'Espagne qui clairement a rajouté l'adaptation comme corde à son arc. Merci beaucoup Jérôme, j'espère que c'était pas pour toi les pompiers, on a entendu les sirènes à Dallas.
Non, c'était la police qui est passée, mais je sais pas.
C'est pas pour toi. T'es pas mal garé.
Non. Oh là,
tout va bien. Non, je suis pas mal garé. Attention, oh le sillon. Attention, le shérif est en ville. Merci beaucoup, Jérôme.
Salut les copains.
Bonne soirée après ce magnifique match entre le Portugal et l'Espagne. Allez, la fin de la première mi-temps de ce huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique. Les Belges qui ont repris du poil de la bête, Aurélien Tiercin à Seattle.
Bah, ils ont douté, allez, 70 secondes, 2-1 pour la Belgique, doublé de Charles de Ketelaar, qui était peut-être pas critiqué, mais en tout cas on était un petit peu circonspect, c'est mieux, par rapport aux performances de Ketelaar comme faux numéro 9. Là il prouve que c'est un vrai numéro 9, deux buts de renard, des pieds, du pied droit dans les 6 mètres sur un centre de Nicolas Raskin à la 9e, un centre de Trossard à la 33e, et là son mètre 92 qui a bien servi. L'appel de Folarin Balogun lancé par Alex Priman, il va récupérer le ballon sur la droite de la surface de réparation, c'est difficile, et Nathan N'Goy, la grosse défense de Nathan N'Goy, on en parlait, Elton aussi tout à l'heure, 7e sélection simplement pour Nathan N'Goy, le défenseur de Lille, qui est pas titulaire 100% du temps avec Lille d'ailleurs, et qui pour l'instant fait une excellente Coupe du Monde quand on lui fait confiance.
Et au passage, c'est un choix qui est bien senti du côté de Rudy Garcia pour matcher avec la rapidité, la percussion de Folarin Balogun, et là on le voit sur ce dernier duel, à savoir que N'Goy, qui pour moi fait un sacré tournoi malgré son expulsion, il est en train de tenir la dragée haute à l'un des meilleurs buteurs de la compétition.
Ouais, solide, hein, oui. Franchement. Là, même que ça soit dans la profondeur.
C'est l'enjeu, parce que Balogun, dès lors qu'on lui enlève la profondeur, l'espace, c'est un peu plus lisible comme joueur.
Clairement, et c'est fou cette physionomie de match. On a pensé que les Américains allaient pouvoir presque renverser les Belges juste après le but qui a complètement désarçonné les Diables Rouges. Finalement, solide, hein. Clairement les Belges, Aurélien, là-dessus. Dans la
façon impressionnant même, parce qu'on les avait pas du tout vus comme ça, avec cet état d'esprit, cette sûreté dans les prises de balles. Et je trouve que les Américains, au contraire, ils sont un peu trop foufous. Alors certes, ils sont menés au score, mais il y a qu'un but de retard, il reste énormément de temps, c'est la 42e minute à peine. Et dès qu'ils ont le ballon, Elton, ils se projettent devant à 100 à l'heure.
Oui, alors
mais ils perdent le ballon vite.
Oui, exactement, parce que il y a une course à l'urgence. Encore une fois, faut pas banaliser le fait que pour la première fois, en plus en phase éliminatoire, ils sont menés, parce que jusque là, toute leur compétition, c'est qu'ils étaient devant au score. Et là, ils sont dans une situation qui est plutôt inédite pour eux, et forcément, il y a beaucoup plus de pression parce que c'est un huitième de finale et qu'il y a une équipe en face. Il y a quasiment tout qui lui réussit, à l'exception du coup franc de Tillman. Donc forcément, ça joue, ou plutôt les États-Unis déjouent face à la Belgique.
Allez, le bon coup franc pour la Belgique. Ouais, sur le côté gauche, on est assez loin là, 50 mètres des cages de Matt Fries. On va pas pouvoir le tirer directement, bien évidemment, mais ce sera dans la boîte pour probablement le pied droit de Youri Tielemans ou finalement le pied gauche de Maxime de Kuyper. C'est bien tiré, la tête de Luke Bacchio au ras du poteau droit de Matt Fries, et il s'en veut Luke Bacchio parce que c'était parfaitement tiré de la part de Kuyper, et la tête de Luke Bacchio elle passe aller à quoi, 25 cm de la cage de Fries.
Ah, il peut faire mieux, hein.
Après, c'est dur, hein, qu'il peut pas trop la décroiser. Il fait quand même un appel au premier poteau. À part, éventuellement la prolonger, tu dois juste l'effleurer, quoi. Sur cette tête.
Ah, les Américains qui ratent encore une fois une passe dans l'entrejeu, mais c'est bien récupéré, bien giclé de la part d'Anthony Robinson, mais ça passe pas sur le côté gauche, le relais avec Malik Tillman qui ne fonctionne pas. Christian Pulisic, pour l'instant, on a du mal à le trouver. Il fait pas une immense Coupe du Monde, une seule passe décisive donnée. Il a pas de connexion avec Folarin Balogun pour l'instant dans cette partie. Balogun, justement, sur le côté gauche de nouveau pour Anthony Robinson, mais il y a difficulté à centrer. Weston McKennie en retrait pour Tim Rim, le joueur expérimenté, 38 ans, qui est revenu en MLS à Charlotte, qui a passé beaucoup de temps à Bolton et à Fulham, notamment en Angleterre. Les Américains essaient pour une fois de construire tranquillement. Alex Freeman, la fin de corps, Balogun dans la surface de réparation. Encore une fois, la protection de Nathan N'Goy, elle est parfaite et les Belges peuvent s'en sortir. Le ballon va filer jusqu'au gardien américain Matt Freeze. Il reste 90 secondes à jouer dans le temps réglementaire de la première période. À cause de la pub, de la pause pub, il y aura bien sûr beaucoup de temps additionnel. Mais la Belgique mène 2-1 et c'est un écart au score qui ne traduit pas la tranquillité technique pour l'instant que montrent les Belges pendant cette première période.
Franchement, possession de balle, intensité, il y a tout, même si il y a peut-être quelques sautes de concentration là, tu vois, ils reculent un peu nos amis belges, Elton, sur cette fin de première mi-temps quand même, hein.
Oui, parce que là les Américains sont à l'initiative, donc forcément on est un peu plus dans une situation d'attente, mais sans pour autant concéder des occasions, parce que hormis ce coup franc, Thibaut Courtois, on l'a pas vu.
Si tu veux, j'ai les expected goals.
Les fameux expected goals.
0-1 pour les États-Unis, 1,88 pour les Belges.
On va dire c'est un peu déséquilibré.
Parce qu'effectivement,
ça traduit bien ce qu'on voit, en tout cas, parce que les Belges, ils ont marqué deux fois, donc on va dire que ça correspond. Et les Américains, c'était un coup franc 26 mètres dans l'axe, et donc faut comprendre qu'il y avait 10% de chance de marquer sur ce coup franc là. Ça a été fait par Malik Tillman, justement, qui est à la touche sur la droite de la surface de réparation dans la boîte. Il y a une tête américaine, la reprise de Follarin Balogun. Il était dans les 5,50 et il est en déséquilibre, gêné par un défenseur belge, 2-1, et il y aura corner, je crois, accordé par monsieur Maradme, et je pensais que c'était Balogun. Ouais, c'est gêné par Nathan N'Goy. Gros match du défenseur lillois.
Ouais, il fait un sacré match, et même avant la touche, il y avait une intervention qui était décisive face à Follarin Balogun. C'est clairement pour moi l'une des justifications réussies de Rudy Garcia par rapport à son 11 de départ sur ce match précis.
Allez, la touche.
Allez, c'est le visage des États-Unis du soccer. Christian Pulisic qui va tirer le corner depuis la droite du terrain. On est entré dans le temps additionnel depuis 20 secondes. Il y en a 6 en tout. Et les joueurs sont en train de se disperser. Alors, est-ce que j'ai du mal à comprendre le football?
Bon, il n'y a plus de corner.
Oui, il a inversé la décision.
Voilà, il n'y avait plus de corner. C'est effectivement sortie de but pour la Belgique. 2-1 pour les Belges. Il reste 5 minutes dans le temps additionnel.
Moi, je suis supporter lillois. Je suis content quand je vois le match de N'Goy. Hein.
Mais très clairement, il a déjà fait de très bonnes choses du côté du LOSC avec ses 3e places. Et là, il va encore grandir sur une Coupe du Monde avec potentiellement un quart de finale sur son CV.
Mais c'est peut-être bien pour les droits de la Ligue 1 aussi, parce que là le monde entier est en train de voir un duel Lille-Monaco, et ça va donner envie pour la saison prochaine, peut-être.
Tu crois?
Peut-être. 5 minutes, non, absolument pas. 5 minutes. D'ailleurs, est-ce que Balogun va rester à Monaco? Ça, je ne sais pas, parce qu'il est en train de prendre de la valeur, mine de rien, pendant ce mondial. Ça, on verra, et il est peut-être sur ce qu'on appelle une wonder season, Elton. Il a fait 6 derniers mois excellents à Monaco, mais avant, on avait vu aussi ses défauts.
Oui, parce qu'il a eu des blessures, il a eu du mal à revenir, il a eu des performances qui étaient pas forcément
devant, quand Biret était cartonné. Ouais.
Voilà, il y a eu Biret, mais là on a le sentiment que sur les 6 derniers mois, les planètes étaient alignées. Il a eu de sacrées performances face au PSG, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, où il avait marqué en barrage aller. Et globalement, oui, c'est un attaquant de toute façon qui est dimensionné pour le football de 2026. On demande à des attaquants d'être très verticaux, de pouvoir tenir une ligne offensive à quasiment eux tout seuls. Et c'est vrai que Follarin Balogun, en plus, il a le passeport qui va bien, américain. Ça peut être très intéressant.
Et nationalité britannique, ce qui, évidemment, en première ligue, quand tu as un joueur du pays, ça se monnaie très cher aussi. Hein.
Allez, ça court vite côté américain avec Sergio Dest sur le côté droit. Il va y aller, il va essayer de passer Maxime de Kuyper. Excellente défense du joueur de Brighton. 24e sélection pour lui ce soir. Il a été très costaud. Il s'est pas fait embarquer par Sergio Dest. Les 3 dernières minutes, 3 minutes 30 exactement dans le temps additionnel encore à jouer. 2-1 pour la Belgique, et Dodi Lukebakio sur le côté droit de l'attaque ne va pas paniquer, va souffler un bon coup, repasser par derrière. Et finalement, on va attaquer vite avec le centre de Timothy Castagne. On va chercher De Ketelaere. Ça va être un petit peu long. Récupéré par Leandro Trossard sur le côté gauche de la surface de réparation avec son numéro 10. Et il va obtenir un corner. Alex Freeman n'est pas content, n'y croit pas. Mais pour moi, il y a bien, bel et bien, corner en faveur de la Belgique. Et non, sortie de but finalement. Sortie de but de monsieur Maradme. C'est compliqué, visiblement. Pour moi, il y avait corner. Double contact. Ouais. Double contact, effectivement. Donc, c'est normal. Sortie de but pour Matt Freeze. Ah bah non, on joue le corner. Alors je comprends plus rien. La frappe de Dodi Lukebakio, et là elle est pas touchée par un Américain. Alors le VAR, bon, moi déjà de base je suis pas un grand fan. Je comprends pour les décisions importantes, mais maintenant on l'introduit pour savoir s'il y a corner ou pas. Et là ça a changé trois fois dans l'action. Bon, c'est compliqué. 2-1 pour la Belgique. Plus, 2 minutes 30 à jouer dans le temps additionnel.
Les positions commentateurs sont très hautes dans les stades. Et là, je sais pas ce que t'en penses, Elton, mais la réalisation aussi qu'on nous propose est quand même un peu bizarre, hein, des plans de coups on nous montre
on est très rapide, très expéditif, donc ça ne permet pas de forcément comprendre tout rapidement. On n'a pas forcément la pièce du puzzle pour comprendre ce qui s'est passé.
Ah oui, ça c'est voilà, malheureusement la dépendance. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas tellement habitué à ça. Attention, les Américains.
Allez, l'appel de Balogun dans la surface de réparation. La sortie de Thibaut Courtois. Et il a bien fait de mettre ses grands compas à terre, le gardien du Real Madrid, parce que ça a gêné Follarin. Balogun, encore une fois, les appels très tranchants de l'attaquant de l'AS Monaco. 2 minutes encore à jouer en première période. 2-1 pour la Belgique. Le doublé de De Ketelaere. Malik Tillman avait marqué un coup franc à la 31e. Entre les deux buts belges, De Ketelaere a permis à la Belgique de reprendre les devants. Allez, 70 secondes après l'égalisation de Malik Tillman, les Américains avec le ballon dans les pieds. Chris Richards dans l'axe pour Balogun. Là, techniquement, c'est un peu plus compliqué. Weston McKennie a du mal à récupérer le ballon et la Belgique peut recontrôler avec Dodi Lukebakio. On est au milieu de terrain. Sur la droite, on passe la ligne médiane. Il va essayer d'y aller tout seul en dribble. Il va plutôt s'appuyer sur Hans Van Aken, qui a fini par trouver sa place finalement dans ce 11 belge.
Ouais, fallait qu'il entre dans la rencontre. C'est clairement beaucoup plus compliqué dès lors qu'on est le premier remplaçant. Et là, plus ça va, plus il a le sentiment d'être à l'aise sur la pelouse. Et ça, c'est quand même bien pour le milieu de terrain belge, parce qu'il apporte encore plus une sensibilité technique. Il joue très souvent en une touche de balle, ce qui permet d'accélérer le jeu.
Et surtout, Elton, je regardais sur le banc des remplaçants, il n'y a pas tant de solutions en tant que milieu récupérateur. Après, t'as Axel Witsel, mais qui a 37 ans, qui est un petit peu sur la pente descendante. Sinon, c'est Kevin De Bruyne, Diego Moreira, ou éventuellement Alexis Elemakers, qui joue plutôt sur le côté droit. Donc finalement, il n'y avait pas trop le choix.
Ouais, c'est très clairement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et d'ailleurs, ça a été globalement une grande question, le milieu de terrain belge, notamment sur la question des profils, qui pouvait intégrer ce 11 de départ. Là, on avait trouvé une formule sur le début de rencontre, il y a eu la blessure de Nana, tout ça pour expliquer, ça reste compliqué.
Ah, le petit pont, ça s'est bien joué. Dest pour Balogun, la frappe ou le centre. Il avait plutôt tenté le centre pour Pulisic. C'est contré encore une fois par Nathan N'Goy. Corner, là c'est sûr pour les États-Unis.
Sacrée première période, on est sur un duel Balogun Nathan N'Goy qui est fantastique, parce que là on est sur de la vitesse, on est sur de la percussion et les deux se lâchent pas.
Ah, y a, franchement, moi, l'appel quand il se déclenche, qu'est-ce que ça va vite Balogun, hein. Franchement, faut suivre. N'Goy, hein.
Rarement vu aussi efficace derrière Nathan N'Goy. Là, il fait vraiment une très très grosse première période. 2-1 pour la Belgique. On est passé au-delà des 6 minutes de temps additionnel. Probablement la dernière opportunité des Américains pour éventuellement égaliser dans cette première période. Le corner de Pulisic. Et c'est directement dans la niche de Thibaut Courtois. Très mal tiré. C'est la mi-temps. 2-1 pour la Belgique. On avait peur pour les Belges après le bon début de tournoi des Américains. Mais quelle réponse des Diables Rouges pour l'instant, et notamment de Charles De Ketelaere. Auteur d'un doublé au 9e et 33e minute. Malik Tillman avait égalisé à la 31e pour les USA.
Avantage au score logique pour la Belgique dans ce 8e de finale. Vous êtes bien sur RMC. On est en direct pour suivre ce 8e. Et cet avantage au score d'un but de 2-1 pour la Belgique. Un but d'avance. On revient dans un instant sur RMC. Il est 2h52 du matin. Et oui, on est en direct. On est là avec Elton Mokolo et Aurélien Tiercin pour vous faire vivre ce 8e de finale. Pour l'instant, c'est la Belgique qui rejoindrait l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde.